Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Des planches, la dernière de l'année, donc les voix sont vives, on est très content de terminer cette année la conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM, Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au studio, tout le monde est là, hein, tous les bons élèves, Nicolas, Elisabeth, Catherine et Sophie. Bonsoir, bonjour.
Hello.
Bonsoir, bonsoir.
Salut.
Ah là là, ça dort. Alors, spéciale
mais
fête.
Non.
Spéciale fête, hein, évidemment, sur scène. Quelques théâtres ouvrent leurs portes et on fera cette petite demi-heure, donc réveillant Noël, les spectacles qui ont lieu à Bruxelles. Et on enchaîne direct avec Sophie. Sophie, toi, tu es partie à l'atelier 210 voir cette création. Alors, le titre fleuve, je te laisse le prononcer.
Donc, ça s'appelle l'histoire de l'homme qui était rentré en Porsche dans le magasin de photocopies. Voilà, donc l'atelier 210 accueille ce spectacle écrit et mis en scène par Olivier Coyette pour le comédien Valérie Mastion qui est seul en scène. Et on se retrouve dans un délire post-traumatique d'un homme qui attend les secours la nuit du Nouvel An. Il se retrouve coincé dans le toit ouvrant d'une Porsche encastrée dans un magasin de photocopie. Donc voilà, on a affaire à cet homme complètement odieux. C'est le connard par excellence qui fout des tartes à ses enfants, qui se moque de sa femme, voilà, j'en passe, et qui pense que les gens sont, c'est écrit dans le texte, bêtes à bouffer du foin.
Donc un connard, quoi.
Exactement. Et il nous raconte les dernières 24 heures donc ce 31 décembre, comment il s'est retrouvé dans cette situation. Ce sont 24 heures racontées chronologiquement, avec énormément de digressions, mais c'est un texte vraiment drôle, un humour noir, corrosif, et avec un rythme vraiment effréné. Et ce type complètement imbuvable parvient à nous faire rire de situations politiquement incorrectes.
Et comment on fait sur scène pour avoir une bagnole encastré.
Il n'y a pas du tout de bagnole. En fait, il y a juste, ça, c'est complètement épuré. Il y a juste une chaise sur scène. Et donc, quand il entre en scène, il est, la chaise est couchée par terre. Et voilà, il est couché, coincé. Et puis, il part. Et voilà, il va
nous raconter. Il n'est pas coincé dans son toit ouvrant tout le long de la pièce.
Non. Il faut juste l'imaginer. Voilà, un petit effort d'imagination. Donc, seul en scène, un texte avec un rythme effréné. Mais, malgré tout, beaucoup de coupures avec des passages musicaux. Moi, ça m'a un peu posé question parce que voilà, c'est peut-être censé donner un peu d'épaisseur à la narration. Voilà, ça
entrecoupe de respirer, aussi,
de respirer voilà. Aussi parce qu'effectivement, c'est quand même beaucoup de mots à dire. Enfin, voilà, c'est un fameux rythme et ça lui permet peut-être de souffler un peu. Mais ce sont des passages qui, par moments, sont assez surjoués. Donc voilà, il y a une musique qui commence et le type commence à danser, à faire le jack comme ça, à faire un peu son show. Et il y a des moments, c'est un peu surjoué. On a un petit moment, enfin, je sais pas, on ressent un petit moment de solitude pour le comédien.
De toute voilà. Façon, il doit aller à fond la caisse.
Exactement, et c'est totalement assumé. Mais c'est vrai que par moment, bon, on n'est pas. Bon, c'était la première aussi hier. Donc voilà. Et puis il y a d'autres moments quand il se prend un délire sur Mylène Farmer, qui sont tout à fait, qui sont vraiment drôles, vraiment drôles. Donc voilà. Alors ce personnage, on pourrait le détester totalement et ne pas du tout accrocher. Mais il y a quelques petites choses dans la mise en scène qui permettent quand même de rattraper le public. C'est que bon, c'est un mécanisme qu'on voit quand même de temps en temps. Mais voilà, les codes du théâtre sont cassés et il y a un moment où les lumières se rallument. Il s'adresse directement au spectateur en critiquant le texte. C'est un texte de merde, un spectacle de merde. Voilà, il le dit comme ça et il le dit bien. C'est pas moi qui écris le texte. Donc il y a ce côté le comédien qui
se abîme du théâtre.
Tout à fait. Et finalement le comédien qui se détache du personnage mais qui est tout aussi odieux que le personnage. Enfin voilà, donc finalement c'est en sortant de son rôle, il le renforce et ça se passe bien.
Et Coyette qu'on connaît critique hein, vis-à-vis de tout le monde, mais enfin, il critique le milieu théâtral.
Il critique le milieu théâtral, tout à fait. Il y en a quand même pas mal qui en prennent pour leur grade. Je sais pas si je dois les citer, ça laisse une petite surprise
oui,
pour les gens.
Mais si on ne connaît pas, est-ce que c'est lassant
Non, je pense que c'est pas dérangeant parce qu'effectivement, il y a quelques personnalités qui sont citées. Bon, ben voilà, si on connaît pas, on connaît pas. Et en même temps, là aussi, le comédien intervient en disant au spectateur, bah, vous connaissez pas, c'est pas grave. Donc, voilà.
Il y a un beau jeu de théâtre dans le théâtre.
Tout à fait, tout à fait. Et il y a énormément de belgitude dans ce texte. C'est un humour noir, un humour à la belge. Et pas mal de références, que ce soit sur la monarchie, la politique, la société, et j'en passe. Voilà. Donc, mais c'est un gros délire, juste qu'il part dans des situations vraiment rocambolesques. Vraiment un gros délire assumé.
Et bien choisi pour le réveillon ?
Ça se passe la nuit du Nouvel An, donc oui, pourquoi pas. Oui, après, bon, ça part dans un gros délire, donc c'est pas non plus le plus festif jusqu'au bout, quoi. Mais
il y aura d'autres festifs. Donc, le titre, Histoire de l'homme qui était rentré en Porsche dans un magasin de photocopies, Olivier Coyette, à voir à l'atelier 210 jusqu'au...
À l'atelier 210, c'est jusqu'au 7 janvier, et le spectacle se joue le soir du réveillon. Donc voilà, il reste de la place pour le 31 décembre. C'est suivi d'une soirée qui, par contre, est complète, une soirée avec DJ dès 23h.
Ok, atelier 210, www.be. Après l'atelier 210, on va à la Toison d'Or. Eux aussi font le réveillon. Alors, qui est parti voir Arnaque, cocaïne et bricolage?
Moi.
Catherine.
J'ai eu cet honneur. Non, Arnaque, cocaïne et bricolage, c'est vraiment pas le spectacle à voir. En cette période de fête, c'est pour moi... une nullité absolue. Voilà, on nous annonce ça comme un hommage à tout ce qui est Pulp Fiction et autres films de gangsters tournés en dérision, sauf que tout le monde n'est pas Tarantino et que ici ça tombe complètement à plat dans une grossièreté, une vulgarité très grasse. L'histoire n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est 5 bras cassés qui préparent le casse du siècle et qui sont évidemment hyper foireux et voilà, tout ça dans des vannes qui tombent à plat, qui m'ont pas du tout fait rire, donc voilà.
Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait quand même un casting de comédiens appréciés du public. On retrouve Patrick Ridremont, Clément Manuel et Didier Kolff également.
Qui ne démérite pas du tout, mais le texte n'a juste pas d'intérêt pour moi. La mise en scène, pas beaucoup non plus. Pourtant, c'est mis en scène par Olivier Massard. Voilà, sauf pour les chercheurs en sociologie sur la langue ordurière en Belgique. Voilà. Je ne le conseillerais pas. Par contre, en même temps, il y a Antoine Guillaume Assume, qui est une reprise d'un spectacle qu'on avait vu la saison dernière. Antoine Guillaume, c'est une bête de scène. Il s'assume, il assume son homosexualité, mais pas seulement. Il raconte un petit peu toute son histoire et surtout son goût pour les divas, les chanteuses et les comédies musicales et Mary Poppins et tout ça. Et sur scène, il chante en même temps, il fait des claquettes. Voilà, c'est hyper festif. Alors là, vraiment, s'il y a un spectacle à conseiller, si on a envie de quelque chose pour se mettre de bonne humeur pour le reste de la soirée, c'est Antoine Guillaume Assume. Vraiment.
Bon, donc pour un réveillon foireux, allez voir Arnaque, cocaïne et bricolage. Et pour un chouette réveillon...
Peut-être qu'au deuxième degré, ça marche aussi.
Être coincé au réveillon avec un mauvais spectacle, je ne vous dis pas les engueulades dans le groupe ou le couple, ça doit être... Oh là. Et donc voilà, Antoine Guillaume Assume, ce sera au Théâtre Molière, mais tout le temps organisé par la Toison d'Or. On a encore le temps pour aller faire un tour du côté de Haig avec Palace, Nicolas. Oui, oui,
oui. Oui, oui, oui.
Tu as osé nous mettre Palace.
Voilà, c'est donc le générique de cette série culte pour certains des années 80, diffusée sur Canal+ en France et qui regroupait de belles plumes, hein, Jean-Michel Ribes, Topor et Walinsky, si je ne m'abuse, et pour une série tout à fait ubuesque, parfois même, avec des situations tout à fait rocambolesques, qui nous emmène dans la vie d'un palace, un grand hôtel, avec sa population bourgeoise et aussi son personnel qui lui fait face aussi à des situations des plus burlesques. Alors, c'est un ensemble de sketchs que nous propose la troupe de Daniel Hansens, plus de 20 personnes sur scène, enfin à peu près 20 personnes sur scène, danseurs et comédiens sont là pour alterner cette suite de sketchs qui nous propose différentes vies, conseils de maintien et de bienséance avec Lady Palace, évidemment, interprétée par Laure Godiziabois, une habituée de Daniel Hansen, c'est notamment dans ses rôles de bourgeoise un petit peu déjantée.
Excellente.
Tout à fait. Il y a Daniel Hansens qui lui-même est le réceptionniste. Le directeur de l'hôtel, c'est Pascal Racan, qui doit faire face également aux exigences de certains des clients les plus pointillés. On va peut-être un petit peu baisser parce que ça...
Comment on gère 20 personnes sur scène?
Alors, évidemment, ils ne sont pas tout le temps 20 sur scène. Ça s'enchaîne, ça doit claquer un petit peu. Et c'est peut-être justement là que le bas blesse, c'est dans le rythme. La télévision, ce n'est pas du théâtre et le théâtre n'est pas la télévision. Même si on pourrait penser en voyant Palace que c'est du théâtre filmé, eh bien non, parce qu'il y a des écrans qui tombent à la télévision dans le montage, des jingles qui claquent, et malheureusement sur scène c'est un petit peu alourdi parce que c'est une grosse mécanique, les numéros musicaux enchaînent et viennent donner des respirations, mais évidemment là c'est un petit peu délicat hein, pour venir faire respirer ce spectacle. Alors puis, dernière chose aussi, c'est le texte.
Ça, voilà. Oui, ça a beaucoup vieilli. Ça pouvait paraître très décalé à l'époque, mais aujourd'hui...
Alors ça passe, c'est très en dessous de la ceinture, ça il faut l'avouer, des skates justement, c'était la confrontation de cet univers luxueux avec des réflexions bas de plateau évidemment et ras des pâquerettes. Alors parfois ça fait encore rire, moi je trouve qu'il y a quand même des passages comme avec l'Orgue d'Isiabois où ça fait rire, ou d'autres qui vraiment tombent à l'eau. Par exemple, il y a une séquence sur une partouze qui est complètement, on ne voit pas la partouze mais une invitation à la partouze qui tombe complètement à l'eau. Je l'ai revu sur internet comment ça s'était passé en télé, et c'était encore une question de rythme, je trouve, les répliques qui claquent et qui manquent de claquer. Voilà.
Ils ont fait un copier-coller.
Ils ont fait un copier-coller d'une série. Les textes sont tels quels. Hein. La série n'avait pas duré très longtemps, mais ils ont pris une espèce d'échantillon.
Dans une scénographie réaliste d'un palace.
Oui, oui, on est face au grand escalier d'un palace.
La totale pour le réveillon. On s'y met à fond.
Et la porte tambour, bien sûr, qui tourne et qui voit les clients arriver et partir.
Moi, je trouve que ça aurait été intéressant de réécrire des textes, en fait, sur la. Parce que c'est vrai que cet écart entre les pauvres et les riches, ça parle encore aujourd'hui, mais on pourrait en faire d'autres textes. Voilà, je trouvais ça dommage.
Mais encore une fois, je crois que ça a été écrit pour la télévision et non pas pour le théâtre. Contrairement, je crois, à Muséo, Musée Bas de Jean-Michel Ribe, qui l'a fonctionné, je crois, un tout petit peu mieux lors de ses dernières créations.
Mais on a vu des adaptations, moi, rien à voir avec les festivités, mais j'ai vu Festen au théâtre et ça tient la route. Donc il faut racoler, il faut renouer les charnières, mais il y avait moyen. Mais alors, question vache, à voir ou pas au réveillon? C'est le plan foireux ou quoi?
Alors, depuis la création, le spectacle a été un petit peu ramassé. Hein. Je crois qu'ils ont dû voir parce qu'ils voyaient que le spectacle manquait de rythme. C'est un peu délicat à dire parce qu'en effet, il y a des moments où on sourit, mais il n'y a pas de moment où on se tape sur les cuisses.
C'est long. On peut aller plutôt sur YouTube revoir les sketchs avec...
Donc, un réveillon YouTube et sketch de Palace.
C'est quand même long puisqu'il y a 2 heures de spectacle avec un entracte et c'est quand même assez long, oui. On a vu des gens partir malheureusement à la pause.
Ok, donc moi j'ai l'impression que ça va être le plan foireux du réveillon.
C'est dommage parce que Daniel Hansens nous avait habitués à de belles créations pour les fêtes de fin d'année. C'est un habitué du théâtre de divertissement.
Alors moi je retiens Antoine Guillaume Assume jusqu'à maintenant et La Porche et Coyette. On fait une petite pause musicale ou tu nous emmènes dans la revue?
Non, on va faire d'abord une pause musicale pour respirer un petit peu.
Respire.
La conspiration.
De retour dans La Conspiration des planches, spéciale fête. On va remettre les micros peut-être.
Et justement, voilà. Nicolas, c'est toujours rock'n'roll attitude. Hein. Nous, on croyait que tu allais nous mettre Bonnet M ou La Danse des Canards. On était prêts à l'esprit
que
des
de
fêtes.
Que de la nouveauté.
Allez, l'esprit des fêtes, c'est la revue, hein, la traditionnelle revue. Catherine, Nico, vous êtes partie. Catherine, la parole est à toi.
Oui, moi, ça fait quelques années que je couvre la revue, donc je peux vous dire que rien de neuf à l'horizon. C'est toujours la revue, c'est toujours une succession de sketchs qui passent en revue l'année passée. Alors, on pourrait se dire qu'avec l'année qu'on vient de connaître, il y a matière à faire quelque chose de quand même absurde et surréaliste. Eh bien, voilà, moi j'ai pas beaucoup ri, mais je dois avouer que c'est pas ma tasse de thé. Donc peut-être, Nico, tu vas nous donner plus envie.
Mais je ne sais pas, puisque c'était ma première revue.
Okay.
Et donc, c'est donc en effet une année politique assez chargée, qui est abordée évidemment avec plusieurs caricatures d'Elio Di Rupo, par exemple, de Richard Ruben, de Pierre Pigeollet également. Ça marche pas à tous les coups. C'est très aléatoire, parfois des sketchs tirent en longueur, notamment Marcel Collat avec Bernard Lefranc, qui malheureusement improvise un peu trop et va un peu trop loin avant la pose. Il y a quand même deux, trois choses. Par exemple, certains passages, quand il imite le roi Albert, moi, ça m'a fait un petit peu sourire. Et puis, il y a un passage aussi avec Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sur la crise de l'euro. C'est très court, mais vraiment, ce qui vient tout gâcher, alors là, c'est les passages musicaux et les danses qui sont tout à fait catastrophiques.
Entre les passages, ils font des chorégraphies.
Et des chansons. En fait, ce sont des chansons connues de l'année qui ont été retravaillées au niveau du texte.
Et par exemple, on prend un tube de Lady Gaga et on en fait une chanson sur l'écologie.
Et c'est assez mauvais, malheureusement, parce que le public n'écoute pas le texte et puis c'est pas forcément interprété par les comédiens. C'est vraiment la meneuse de revue qui nous entraîne dans ces univers-là.
C'est pas très top. C'est censé mettre du peps dans les réveillons. Il y a toujours un intermède musical.
Mais pas assez confetti pour moi.
Les gens adorent. Les gens sont à fond dedans. Oui. Moi, j'aime pas le côté poujadiste aussi.
Oui, aussi, c'est vrai.
L'humour.
L'humour un petit peu lourd, oui. Voilà.
Voilà. Donc, je dirais à éviter pour le réveillon.
Mais c'est à voir, en tout cas, jusqu'au 31 décembre.
Donc, les amis de campus, on vous fait une spéciale réveillon plan foireux, au moins à éviter. Mais je crois que moi, avec Fedo, que Elisabeth a vu, je crois que moi, ça me tente parce que Fedo a une bonne mécanique.
Fedo a une mécanique magnifique. Mais...
Non, je ne veux pas de mais aujourd'hui. Non.
Bon, déjà, c'est lequel?
Alors, c'est à peu près le meilleur de Fedo. C'est un fil à la patte, donc c'est une œuvre plus ou moins moyenne, dans l'ordre chronologique de sa carrière. Alors, c'est un projet de Peggy Thomas et de la compagnie Chéri Chéri. Enfin, pour situer un peu les choses, c'est
entre autres... Elle avait déjà fait le Dindon, d'ailleurs.
Voilà.
Qui était très bon.
Mais c'est aussi ceux de Toutes nos mères sont dépressives, de l'homme du câble et tout ça. Donc, il y a la volonté de faire un Fedo à la sauce jeune création. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un Fedo dans lequel on a enlevé le décor, les costumes, les portes qui claquent.
Oh.
Voilà.
Les amants dans le placard.
C'est vraiment ce qu'il faut pour Fedo, je trouve, aujourd'hui.
Déjà ça. Et puis, alors, on se demande, qu'est-ce qui reste? Alors, qu'est-ce qui reste? C'est bien sûr le texte. Alors, effectivement, c'est un super chouette texte parce que c'est une mécanique, c'est les rouages. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vu les rouages, de bien les avoir vus, de bien avoir entendu le texte. Mais malheureusement, je n'ai pas entendu la petite musique de Fedo qui va avec. Parce que bon, il n'y a rien à faire. C'est un texte de répertoire, c'est un classique, etc. Et j'ai l'impression qu'on nous l'a servi comme si c'était un texte contemporain. Mais dans son contenu, la résonance ne se fait pas, évidemment, parce que bon, c'est l'histoire de quoi? Monsieur Bois d'Anguien qui doit annoncer à sa maîtresse qu'il se marie, on s'en fout. Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, on s'en fout. Il n'y a pas moyen d'actualiser ça. On peut enlever le costume, se retrouver en petite culotte ou en caleçon sur la scène. Ça ne va pas faire plus actuel parce que la résonance n'y est pas. Donc, on a une direction d'acteur probablement qui a été vraiment à désosser le texte aussi et pas avoir le jus. Et j'ai eu l'impression étonnante aussi d'avoir les comédiens qui jouaient presque eux-mêmes et pas tellement les personnages aussi. Donc ça veut dire qu'on n'a pas ce plaisir de Fedo, du jeu.
Et de la critique de la bourgeoisie aussi.
Oui, mais même sans ça, il y a aussi, c'est un plaisir de jouer, quoi, d'avoir des comédiens qui jouent. Et c'est quand même, quand on voit les comédiens, c'est pas des manches, ils peuvent jouer, mais c'est comme si on leur avait un peu coincé les ailes. Comme ça
veut dire quoi? Trop de modernité, tu?
Trop de modernité, je ne sais pas. Il faut voir si la modernité a un sens par rapport à ça. Moi, j'ai effectivement entendu le texte et effectivement, c'est un choix de Fedo. Et moi, j'aime bien Fedo parce qu'on a cette mécanique théâtrale. Mais alors, par contre, cette mécanique théâtrale, ce truc bien huilé qui roule tout seul, on vient le couper par des intermèdes qui sont des intermèdes qui, enfin, sont peut-être bien faits. Mais qui, moi, m'ont un peu coupé...
Je crois que ce soir, vous avez tous un problème avec les intermèdes. Donc, on va dire aux gens qui créent des pièces, pas d'intermèdes, voilà. Pas de coupure chanson.
Voilà, vous les enlevez quand on est dans la salle.
Tracez votre spectacle.
Mais je crois que c'est un problème. Est-ce qu'on a la volonté de faire du divertissement à tout prix et la volonté de faire de la musique dans les spectacles de fin d'année? C'est une question qu'il faut se poser.
Il y a clairement, parce qu'on ne verra jamais un Coltès, on ne verra jamais un Pomera ou un Castellucci au réveillon.
C'est quand même programmé fin d'année, c'est quand même un texte paillettes. De répertoire qui est... On sait qu'on va voir Fedo pour passer 2 heures pour boire une coupe de champagne, on ne va pas voir un Fedo pour se prendre la tête. Oui. Voilà. Mais c'est quand même un peu ce qui se passe. Moi, j'étais dans une salle, c'était la deuxième, alors est-ce que ça retombe comme ça? Mais la salle était quand même pas secouée de grands rires.
Moi, j'ai vu la première. Pour moi, le problème, c'est vraiment le décor. Donc au début, ça marche super bien. Au lieu d'être dans un décor hyper bourgeois, canapé et compagnie, on a juste 3 grandes tables et entourées de chaises et tous les comédiens sont là. Il y en a 11 et ils sont tous là. Et ils démarrent tous les pieds en dessous de la table. Donc ça, je trouvais ça pas mal parce que ça décale complètement les codes du vaudeville. Mm-hmm. Et alors, on se parle. Et normalement, il se passe plein de choses. On sonne à la porte. L'amant est là. Enfin, voilà, comme dans un vaudeville classique. Et là, ça décale le truc, c'est pas mal. Sauf qu'au fur et à mesure, ils savent pas quoi faire de leur table et de leur chaise. Et on le sent hyper fort à la fin, dans le troisième acte. Et ça, c'est dommage.
Donc, des comédiens coincés dans un décor, des spectateurs emmerdés par des intermèdes. Oh, yo, yo, Fédo. Oh, yo, c'est Fédo qu'on a assassiné.
Allez, soyons honnêtes, il reste quand même Fédo, quand même. Hein. Mais bon, voilà, c'est
moi,
pas...
Moi, en tout cas, entre ça et l'arnaque...
C'est pas le coup de cœur. Oui,
bon. Et la revue, après tout ce que... Et le palace, donc je me dis, voilà...
Mais on garde le meilleur pour la fin.
On est quand même dans quelque chose de, on va dire, de médian, de moyen avec ce Fédo. Il reste Fédo, il reste des bons comédiens, il reste des choix de mise en scène et de scénographie un peu étonnants. Mais
c'est,
bon, voilà.
C'est qui met en scène? C'est
Alors, c'est Peggy Thomas.
Peggy Thomas.
Et voilà. C'est à voir du côté de l'espace Delvaux à Waterman-Boisfort.
Oui, tout à fait.
Allez, on continue ces plans foireux du réveillon, j'ai envie de dire. Non, allez, c'est demi-plan quand même.
On va un petit peu dresser la barre, peut-être.
On va aux martyrs. Ben, Elisabeth, c'est toujours toi, hein, pour les martyrs.
Mais oui.
Les dialogues.
Alors, les dialogues, qu'est-ce que c'est? Ce sont à l'origine des pièces radiophoniques écrites par Roland Dubillard, qui nous a quittés la semaine dernière. Donc, on est dans la sphère française, pour situer un petit peu Claude Pépulu, enfin, tous ces gens-là, Jean-Michel Ribes aussi, je pense.
De l'absurde total.
Voilà. Et on a des dialogues absurdes qui sont... donc, c'est un spectacle à sketch, servi par quatre comédiens qui sont impeccables, tous les quatre, avec une scénographie qui, cette fois, est normale, classique, avec des portes qui claquent, mais qui tient la route et qui sert le spectacle et qui permet, effectivement, de théâtraliser ces dialogues. Ce qui fait que, moi, j'ai ressenti parfois une certaine un peu redondance dans un sketch ou l'autre, mais c'est pas très grave. Si il y en a un où on accroche un peu moins, on attend le suivant, etc.
Le décor est chouette, je me souviens, oui, c'est un mur avec plein de trappes, voilà. Et alors ils surgissent comme ça de nulle part, de ces petites fenêtres, ça c'est chouette.
Tout à fait, on peut en faire quelque chose, et le décor est signifiant, prend sa place avec réserve de vraies surprises, et justement permet de passer du côté radiophonique, puisque c'est vraiment dans l'échange, à quelque chose qui se passe sur la salle, et tout ça, donc voilà.
Mais c'était une pièce de réveillon, Catherine, toi tu l'avais vue au réveillon aussi?
Non, je ne l'avais pas vue au réveillon, mais je l'imagine tout à fait pour passer le réveillon, c'est très chouette.
Voilà, oui, et disons que la scène finale est plus axée sur la Noël, puisqu'il y a un petit clin d'œil à ça, mais bon, c'est pas grave, même une semaine après, ça le fera encore, mais c'est sûr que c'est quand même quelque chose de sans problème. C'est aussi une mise en scène d'Éric de Star, qu'on a aussi là, quelqu'un qui a une patte et qui a la volonté aussi de servir le public aussi. On sert le texte, mais on sert aussi le public, donc voilà.
Un geste de générosité. Alors ça, c'est les dialogues aux martyrs. J'en profite, Catherine, pour dire qu'il y a les singeries vocales que tu as vues, justement.
Oui, mes singeries vocales, donc les jeux de mots typiques de Bruno Coppens, hein, qui parle du fait qu'il est quinquagénaire et plutôt quinquavénaire dans son cas. Et voilà, tout le spectacle, ce n'est que ça. Des jeux de mots, mais très, très joliment fait. Il y a notamment à la fin, alors là, il finit par une espèce de ping-pong improvisé avec le public. Ça, c'est incroyable, époustouflant. Donc, on lui lance n'importe quel mot et il te fait un jeu de mots, quoi. C'est fou. Vraiment, il a une gymnastique de l'esprit impressionnante.
Ça fait 20 ans, là, maintenant, qu'il fait ça. Mm-hmm. Quelque chose comme ça. Oui, il me semble que je me souviens de ses débuts. Et effectivement, il a pris et des planches et la petite musique dans la tête. Il l'a toujours eu, mais il a pris des planches.
Ça doit être son 4-5e spectacle.
Eh bien, moi, je trouve que c'est une bonne idée de réveillon, faire un ping-pong avec un comédien, lui dire n'importe quoi. Il répond. Voilà. On en a pour 3-4 heures du matin. Il lui dit réveillon. Il te fait un jeu de mots sur le réveillon.
Et donc, pour faire un jeu de mots, on ne se fait pas martyriser au martyr, alors.
Allez, les dialogues, les singeries vocales, le bon coup aux martyrs. Alors, on a quelques minutes pour parler d'un chouette coup de cœur que Catherine aime beaucoup, c'est Noël au théâtre, et il y a aussi Noël au hall. Catherine, explique-nous tout ce Noël au théâtre.
Alors, oui, Noël au théâtre, c'est à la fois un festival à Bruxelles, le festival Noël au théâtre, et puis l'opération Noël au théâtre, ça c'est dans toute la communauté française, à la fois à Bruxelles et la Wallonie, dans plein de lieux différents, à Bruxelles notamment, au Botanique, à la Montagne Magique, au Hall,
au Marny,
voilà, dans plein d'endroits. Il suffit d'aller sur le site de la CTEJ pour avoir tout le programme, mais vraiment, il y a énormément. Je crois qu'en tout, il y a au moins 200 représentations.
Oui, on va préciser, c'est du théâtre pour enfants et jeunesse.
Du théâtre pour les enfants, mais franchement, c'est bien souvent meilleur que le théâtre pour adultes.
C'est aussi même pour les... Il faut bien préciser aussi que même si on a des tout petits enfants, on va aussi trouver des choses.
Ah oui, à partir de 2 ans facilement. Quelques mois maintenant, il y a un spectacle qui s'appelle Concerto Panolino. C'est un petit concert pour les tout petits, vraiment les nourrissons. Donc il y a des tonnes de choses à voir, notamment la création du TOF Théâtre.
À tous les âges, ça marche.
Piccoli Sentimenti. Oui, le TOF Théâtre qui d'ailleurs refuse absolument de se laisser enfermer dans cette étiquette de jeune public. Donc lui revendique un théâtre pour tout le monde. Voilà, moi,
à juste titre de toute façon.
Ah oui, c'est voilà, un sculpteur de marionnettes incroyable qui là s'est allié avec le Teatro delle Briciole italien. Et c'est voilà, quelque chose de très bricolé, magnifique, tout en finesse. Tout en poésie, c'est vraiment très beau. Mais surtout, dans ce festival, il faut voir Coup Cinéma au Hall de Schaerbeek. Donc, Coup Cinéma, ce n'est pas vraiment dans Noël au théâtre, mais c'est dans Noël au Hall. Et c'est au même moment que Noël au théâtre. Et ça, c'est pour tout le monde. Surtout pour les gourmands, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe sur la scène, ça commence comme un film muet. Et puis l'écran se lève et les mêmes personnages qu'on a vus là en noir et blanc se matérialisent dans des vrais comédiens qui sont dans une vraie cuisine et qui vont commencer à préparer un repas, évidemment, ça foire, mais de manière très acrobatique. Donc voilà, on commence à couper des concombres au ventilateur qui s'explosent contre les murs, le frigo fait des siennes et multiplie les jus de concombre, voilà, plein de petites choses. Et on imagine qu'il y a toute une armée derrière d'assistants qui sont là en train de tout faire fonctionner tout ça. Il y a la tuyauterie qui fuit évidemment, le décor qui s'écroule, voilà. Mais en plus, alors on se dit, ouïouïouï, on va manger ça parce qu'en plus c'est un repas spectacle. Donc ils sont censés nous préparer le repas qu'on va manger. Et évidemment, tout ça a été fait dans l'après-midi. Mais donc, ils arrivent. Alors, on a entrée, plat, dessert. Et c'est très bon, en plus. Parce que souvent, ce genre de spectacle, la cuisine est un petit peu sacrifiée. Et on finit avec quelques chips et des pizzas. Et là, c'est vraiment très bon.
Mais malheureusement, ça ne va pas jusqu'au réveillon.
Non, pas tout à fait. Ce n'est pas pour le réveillon. C'est juste avant. C'est du 27 au 30 décembre, il me semble. Et je pense que la jauge est assez réduite, donc si vous voulez y aller, préservez très vite.
C'est une drôle d'expérience de manger, ça arrive rarement, hein, le partage.
Oui, puis c'est vraiment très drôle, quoi. Les comédiens sont très bons, il se passe plein de choses, je n'ai pas le temps de tout vous raconter, mais vraiment c'est super.
Bon, allez, du 27 au 30, et puis à Noël au théâtre. Bon, il y a quand même eu quelques bons spectacles, faites bien attention où vous mettez les pieds, il y a des plans foireux aussi au réveillon. En 2012, on se retrouve à la mi-janvier pour la prochaine émission de la Conspiration des planches 2012. Évidemment, une bonne année à tout le monde. Joyeux Noël sur campus, ça le fait pas trop, mais en tout cas, bonne année.
Bonne année. Joyeux Noël païen, on va
bonne
dire
bulle,
comme ça.
Bulle, on va dire, bonne bulle.
Allez, bonne bulle, là, Elisabeth, tu vois déjà des bouteilles passer. Rendez-vous l'année prochaine.
Merci à toutes et n'oubliez pas les informations sur radiocampusbruxelles.org et le podcast de cette émission sur demandezleprogramme.be et sur labellone.be. Également, très belle fin d'année à vous et très bon début surtout. La conspiración.